Nous continuons donc, en cette fin d'été, nous allons parler de Dioclétien, qui a marqué la fin des persécutions. La persécution de Valérien de 257 à 259 fut violente, brève, mais un de ses écrits stipule « On punira de mort évêques, prêtres et diacres, on confisquera les biens des sénateurs et des chevaliers après les avoir dégradés ». L'État ne rate jamais une occasion de s'enrichir. Quant à ceux qui font partie de la famille de César, s'ils s'obstinent à demeurer chrétiens, on les enverra en exil où ils seront traités en esclaves dans les domaines de César. Cette persécution dura 2 ans et demi jusqu'à la défaite de Valérien devant les Perses, lesquels Perses se traitèrent en esclaves. Son fils Gallien prit le pouvoir sans manifester trop de regret pour le défunt, ce qui a fait un scandale à l'époque. Il y eut ensuite plusieurs années d'anarchie. La guerre civile était presque générale. La peste vint s'ajouter à ses malheurs, ce qui donna aux chrétiens l'occasion de montrer leur esprit de charité, car ils s'empressèrent à s'organiser pour soigner les malades. Si un chrétien tombait au chevet d'un agonisant, un autre venait le remplacer, ce qui a suscité l'admiration de plus d'un païen. Finalement, ce sont bel et bien les chrétiens qui ont inventé l'hôpital, longtemps appelé Hôtel-Dieu. L'Église eut donc quelques répits pendant une dizaine d'années, puis, après une brève persécution sous le règne d'Aurélien en 275, la paix régna jusqu'en 303, presque 50 ans. L'usage des cimetières fut rendu aux chrétiens, et du coup les disputes théologiques commencèrent à faire rage, essentiellement autour de deux points délicats, la Trinité et l'Incarnation. Le dogme catholique se développa autour du consubstantialem patri, un peu négligé de nos jours, mais surtout sur la Trinité. Trois personnes en une essence, et l'incarnation, une personne en deux essences. Il faudra attendre le concile de Nicée en 325 pour avoir une définition officielle, et les hérésies sur ce point sont encore professées de nos jours. Le fond de la question tenait en grande partie au vocabulaire. Utiliser le mot exact, surtout en grec, une langue nettement plus subtile que le latin. Au début de cette discussion, saint Grégoire le Thaumaturge affirmait l'unité de Dieu et de Dieu, Dieu le Père, et une seule sagesse qui subsiste dans une personne distincte, qu'il appelle subsistante, verbe actif qui agit, éternel de celui qui est éternel. Et le Saint-Esprit, qui ne reçoit pas la sainteté, mais la communique, rien de créé dans ces trois personnes, rien qui n'ait subsisté de toute éternité. On comprend que ces notions plutôt intellectuelles présentent quelques difficultés à être traduites. Dans un autre domaine, certains évêques, on cite un certain Paul de Samosate, commençaient à s'installer confortablement et à mener un grand train de vie, alors que l'Empire se lézardait de partout. Cette époque connut aussi l'apparition des ermites qui se retiraient dans le désert pour s'adonner uniquement à la prière. On cite un bienheureux Paul qui se retira dans le désert à l'âge de 16 ans en 244 et qui serait mort à 113 ans après 97 ans de vie d'ermite. D'autres évêques s'intéressaient aux sciences. Saint Anatole avait une admiration réelle pour les mathématiques. Et cela, on le retrouve dans Benoît XVI, qui fait l'éloge des sciences et dit que les sciences ont leur place à tenir dans notre foi. Et face à eux, prenaient naissance des philosophies néoplatoniciennes qui jouaient du merveilleux bâti autour des dieux et des démons du polythéisme pour présenter le christianisme comme une simple évolution des croyances. Par exemple, c'est l'admiration d'amour que saint Jean portait à son maître Jésus qui l'aurait conduit à faire un dieu. Ça tient pas debout, on le disait bien avant saint Jean. Enfin, saint Paul l'a affirmé avant. Là encore, notons que ce genre de philosophie antichrétienne subsiste dans plusieurs sectes ésotériques, se voulant très savantes et supérieurement intelligentes. Je me rappelle avoir discuté de tels problèmes alors que j'avais 16 ou 17 ans, avec un camarade qui me conseilla de lire un livre intitulé « Les grands initiés ». Ce livre mettait sur le même plan Pythagore, Bouddha, Confucius, Mahomet et Jésus peut-être aussi un ou deux autres. Je lui empruntai donc le livre avec l'intention d'en discuter avec un prêtre pour peaufiner mes réponses. Je me rappelle aussi la colère remarquable de mon père, pris par la panique de me voir sombrer dans l'ésotérisme quand il découvrit ce livre dans mes affaires. Satan ne se renouvelle guère dans ses tentations. Et nous voilà à l'arrivée au pouvoir de Dioclétien en 285. L'Empire plié sur le Rhin, plié sur le Danube et sur l'Euphrate. Dioclétien estima qu'un homme seul ne pouvait défendre l'Empire. Il prit comme adjoint un homme nommé Maximien, qu'il nomma son Hercule, lui restait Jupiter. Il installa Maximien à Milan, Rome étant jugée trop loin des frontières. Dioclétien, lui, se rendit dans la partie est de l'Empire, à Nicomédie, non loin de Constantinople, qui à l'époque se nommait encore Byzance. Bientôt, chacun prit un adjoint. Maximien choisit Constance Chlore, il était ainsi nommé à cause de sa mauvaise mine et de son teint jaunâtre, chloros veut dire jaune, avec pour zone d'action l'Espagne, la Gaule et la Bretagne. Dioclétien choisit un barbare nommé Galère, auquel il confia les provinces du Danube, représentant grosso modo la Bulgarie et la Roumanie actuelle. Bientôt, les deux empereurs prirent le nom d'Auguste, leurs adjoints de César. Ce fut le début de la tétrarchie, dont on voit une curieuse représentation au pied de la cathédrale Saint-Marc à Venise, pour ceux qui l'ont vue. Dans le domaine administratif, les empereurs mirent sur pied une nouvelle classification administrative en multipliant les offices et subdivisions. On vit s'abattre sur les provinces une quantité de fonctionnaires et de magistrats en sous-ordre, et notamment dans le domaine de la fiscalité. Bientôt, dirent les chroniqueurs, il y aura plus de mains pour saisir l'argent que pour en donner. C'est le cas de tous les régimes en décadence, multiplication des fonctionnaires et des impôts. Nous connaissons cela. À titre anecdotique, notons que c'est à cette époque que naquit l'habitude de s'adresser aux personnes que nous respectons à la deuxième personne du pluriel. Vis-à-vis de l'empereur, ce n'était plus à César que l'on s'adressait, mais simultanément aux deux Augustes et aux deux Césars. Cette habitude subsiste en français, en hongrois, je crois, et dans toutes les langues slaves, j'en suis sûr. En anglais, on vous voit tout le monde, sauf Dieu que l'on tutoie. En espagnol, portugais et italien, on utilise la troisième personne du singulier, « Usted » signifie « votre grâce ». Et en allemand, la troisième personne du pluriel. Du coup, le tutoiement est beaucoup plus fréquent. Mais si l'on écrit à une personne que l'on tutoie, à qui on doit le respect, on mettra une majuscule là-dessus. Bon, revenons à Dioclétien. Au début de son règne, les églises et les basiliques s'élèvent ou s'agrandissent. Les catacombes se couvrent d'ornements. La législation s'adoucit. Dioclétien, au début de son règne, dispensait les 16 officiers de sacrifier aux dieux, un subalterne remplissant éventuellement cette formalité. À l'intérieur du palais, il y a deux impératrices dont plusieurs historiens pensent qu'elles étaient chrétiennes. Un des chefs du palais était officiellement chrétien. Il reste une lettre d'un certain saint Thomas, évêque d'Alexandrie, et un chambellan de l'empereur, chambellan qui était chrétien, donnant quelques conseils afin que les païens voient leurs œuvres et qu'ils en prennent l'occasion de glorifier notre Dieu. Il donne aussi des conseils pour retransmettre les manuscrits avec exactitude, etc., etc. Mais tout cela finit brusquement en 303. Eusèbe, un prêtre de l'époque, envoie la cause dans le relâchement des églises, les évêques devenus mondains ne s'intéressant plus qu'à leurs discussions. Il a joué les Jérémie. Malheur, malheur, l'église va être frappée comme Jérusalem coupable. La cause matérielle semble être des aruspices, car Dioclétien était très superstitieux. Un jour, les devins lui dirent que les auspices cessaient d'être favorables. Il paraît d'ailleurs que des chambellans faisaient des signes de croix pendant la cérémonie, ce qui n'était guère conforme aux mœurs païennes. Le César Galère, adjoint de Dioclétien, païen convaincu, profita de l'occasion. Il visait à la restauration de l'Empire romain dans toute sa grandeur et pensait qu'il était temps de couronner l'édifice en faisant sortir cette religion nouvelle qui n'existait pas lors de l'institution. Nous aurions tort de prendre ces événements à la légère. Saint Jean rappelle, dans sa correction à l'église de Sardes, le danger d'une foi affadie, voire superficielle. On en trouve des exemples dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust et dans Une vie de José María de Heredia que j'ai lu il y a quelques années. La bonne société du XIXe siècle allait volontiers à la messe ou tenait à s'y montrer pour les grandes occasions. Les domestiques, toutefois, qui voulaient le faire, se voyaient obligés de se lever à 6 heures du matin, si toutefois un prêtre généreux comme l'abbé Huvelin consentait à dire leur messe, à leur attention une messe matinale. Il disait la messe des domestiques à 7 heures du matin. Cette société menait toutefois une vie complètement dissolue. Une amie d'un cercle d'artistes venait aux réceptions nue dans une robe transparente. Un cadeau avait été offert à une grande dame qui a dit à son mari qu'elle le garderait dans sa chambre. Ce à quoi le mari répondit « Je ne le verrai donc jamais plus, car ce n'était plus la chambre de sa femme qu'il fréquentait, etc. » Et le christianisme a sombré. En 1907, la séparation de l'Église et de l'État. Vers 1965, je ne sais plus exactement la pilule. En 1975, l'avortement. Et peut-être en 2015, le mariage homosexuel. Peut-être même en 2013. On peut aussi citer la liquéfaction des mœurs au XVe siècle, qui engendrait le protestantisme, et la luxure du siècle des Lumières, qui déboucha sur la persécution républicaine. Il ne s'agit pas de jouer les rigoristes, mais vivre en chrétien demande une certaine ascèse, même dans un luxe apparent. Il ne faut pas se relâcher de son premier amour, comme l'a dit saint Jean. Le 23 février 303, pour la fête du dieu Therme, Dioclétien décida de mettre un terme, c'est le cas de le dire, à la fête, à la religion chrétienne. Le préfet de la ville de Nicodémie, accompagné de tribuns, de chefs de légion et d'une escouade de soldats, montèrent vers l'église neuve de la ville. Les portes enfoncées, ils cherchèrent la statue du dieu des chrétiens et se contentèrent de prendre les vases sacrés. Tout fut pillé, les livres saints furent livrés aux flammes. Des églises furent détruites un peu partout. Dans les basiliques, on renversait la chaire de l'évêque, on saccageait les sacristies, exactement comme ce sera le cas pendant les guerres de religion, pendant la Révolution 12 ou 14 siècles plus tard, et comme sera le cas de nos jours dans plusieurs pays musulmans d'Afrique et d'Asie. L'acharnement contre les Écritures est symptomatique. On avait proposé une loi déclarant que les livres non autorisés devaient être brûlés. Quand verrons-nous saint Paul proscrit en raison de son premier chapitre de son épître aux Romains, qui est très homophobe, comme on dit maintenant. Un édit fut lancé quelques jours plus tard, stipulant que les chrétiens titulaires de dignité les perdraient, n'importe qui pouvant les incriminer sans preuve. Les chrétiens étaient hors la loi. En 304, ils étaient condamnés à l'apostasie sous peine de mort. La persécution fut violente partout, excepté en Gaule, où Constance Chlore, qui leur était plutôt favorable, s'y opposa. Cette dernière persécution finit dans la lassitude. Certains évêques ont trouvé une solution en livrant des livres de médecine au lieu de parler des Écritures. Dans certains cas, les bourreaux se fatiguèrent, on se contenta, si l'on peut dire, de couper une main aux chrétiens ou de leur crever un œil, voire dans certains cas, leur donner quelques coups de poing avant de les relâcher. Les bourreaux sentaient qu'ils avaient affaire à plus fort qu'eux. En 311, saint Melchiade voit luire des jours plus heureux. Le César Maximien Galère, pourtant leur ennemi primitivement, était très malade et publia un édit de tolérance spécifiant entre autres. Voyant que des chrétiens persévèrent malgré tout, considérant que ces malheureux qui n'ont pas embrassé notre religion, c'était le paganisme, ne peuvent plus observer aucune, mais notons le pluriel de la première personne. Nous n'avons pas voulu les laisser dans cet état misérable où ils n'ont plus ni leur Dieu ni les nôtres. Nous avons donc eu pitié d'eux dans notre clémence et nous leur permettons de nouveau d'être chrétiens et de faire célébrer leur cérémonie à condition de ne pas agir contre les lois. Comme prix de notre bonté, ils sont invités à prier leur Dieu pour notre santé et pour le salut de la République. Notons que ni Hitler, ni Staline, ni Mao n'en ont fait d'autant. En 312, l'Auguste Constantin bâtit l'usurpateur Maxence sur le pont Milvius, après avoir affiché sur son enseigne le monogramme du Christ qu'il avait reçu dans une vision. Il publie en 314 le célèbre édit de Milan. Il est désormais permis de pratiquer non seulement la religion chrétienne, mais n'importe quel autre culte, pourvu qu'on en ait un. Quelque Dieu que l'on admette, on n'était pas encore dans l'athéisme militant. En appendice, Il était précisé que les gouverneurs sont invités à faire restituer aux chrétiens les biens qui leur ont été enlevés, confisqués, particulièrement les biens des communautés chrétiennes. Après Pierre, presque 2 siècles et demi de persécutions violentes, les chrétiens pouvaient entonner l'alléluia du triomphe que leur constance dans les épreuves, l'intrépidité de leur foi et le soutien de leurs évêques avaient permis. Par-dessus tout, il y avait le soutien de l'Eucharistie, comme le montre l'exemple de saint Tarcissus, martyr sous Valérien. Ce mystère inouï, on pourrait dire cette immersion dans l'amour de Dieu, est unique dans toutes les religions. Sa contemplation devrait, on pourrait presque dire, nous obséder. Comment faire pour communiquer un tel trésor? Si l'on y ajoute notre adoption par la Vierge Reine des Anges, on devrait considérer comme très relatif les malheurs d'ici-bas, à condition de rester imperturbablement fidèle. Parmi les prières en latin, je pense au Subtum, à la Dorothée, mais rien n'égale les conversations intimes avec notre Sauveur et sa mère, et la mère qu'il nous a donnée, notamment après chaque communion. C'en est fini avec les persécutions, et pourtant nous verrons la prochaine fois que les premiers pas de l'Église maintenant libre ont été loin d'être faciles.